J'aimerais que vous ouvriez votre Bible dans les Actes des Apôtres au chapitre 14. Tout à l'heure, on a vu comment le Seigneur avait envoyé des hommes, des évangélistes, à partir de l'église d'Antioche. Il les avait envoyés vers Chypre et puis ensuite vers ce qui aujourd'hui est la Turquie. Et ils ont établi des églises sur leur passage. Et là, on va voir justement le fruit de ce travail d'implantation. Et Actes chapitre 14, les versets 21 à 23, pour moi, sont très importants. Je ne définis pas l'action missionnaire à partir de philosophie, à partir de critères psychologiques, à partir de critères économiques, ou que sais-je encore. Je regarde dans les Écritures comment les églises se sont développées au premier siècle. Et certainement, ils ont réussi, eux, à évangéliser toute leur génération. Et nous, avec tous les moyens dont nous disposons, moyens techniques, on éprouve quelques difficultés, mais je crois que c'est parce qu'on a perdu la recette, on a perdu les objectifs, on a perdu la méthodologie, là. Actes chapitre 14, à partir de verset 21 à 23, 21 jusqu'à 23. Alors, à Lystre, le pauvre Paul subit quelque chose. Il est lapidé, traîné hors de la ville, c'est les versets 19 à 20. Verset 21. Quand il dit ça, l'apôtre Paul et ses collègues, là, accompagnés dans cette tâche, donc Barnabas, quand ils eurent évangélisé cette ville, donc la ville de Derbe, et fait un certain nombre de disciples, ils retournent à Lystre, là où Paul s'était fait lapider par une bande de juifs, et je ne fais pas d'antisémitisme, là, je dis ce qui est, quand ce sont des juifs, pourquoi ne pas dire des juifs, quand ce sont des arabes, pourquoi ne pas dire des arabes, quand ce sont des français, pourquoi ne pas dire des français. Je vais être politiquement incorrect, mais je vais être honnête avec la parole de Dieu. Là, des juifs ultra, des pharisiens, etc., ont poursuivi l'apôtre Paul de leur haine, et l'ont lapidé, ont fait lapider à Lystre. Et puis, quand verset 21 nous dit qu'on s'est dû évangéliser cette ville, fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, donc des villes dans lesquelles ils avaient déjà établi des églises. Verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23, ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et là, ils traversent ensuite la Pisidie, ils arrivent en Philippe, ils annoncent la parole à Perge, ils descendent en Italie, etc. Ce sont des évangélistes qui sont en train de faire le travail des évangélistes. Le principe de l'autogestion, le premier critère, tout le monde dit qu'il est le plus difficile à mettre en place. Et pourtant, c'est le critère indispensable. Le préalable indispensable pour qu'une église devienne mûre sur le plan spirituel, mûre dans sa capacité de faire les choses pour le Seigneur. Dans le processus d'implantation, il est généralement admis que l'objectif le plus difficile et le plus long à atteindre, c'est le palier de l'autogestion de l'œuvre, l'autogestion de l'Église. L'Église se prend en charge. C'est vrai qu'il est complexe, mais certainement souhaitable, biblique, et indubitablement possible, parce que ça se fait, parce que même ici dans ce pays. Ici, l'apôtre Paul, avec son collègue Barnabas, bon, il avait une approche qui est sensiblement différente de ce que l'on voit de nos jours. De nos jours, souvent, un évangéliste va se cantonner à une seule ville. Bon, moi, j'ai jamais cru cela. J'étais à Thionville, j'étais à Metz. J'étais à Thionville, j'étais à Lens. C'était Mantes et Vernon. Nantes et Mantes. Un évangéliste, c'était plus qu'une petite localité, une petite œuvre. C'était essayer d'établir des églises dans plusieurs lieux où il y a besoin d'établir des églises. Alors, l'objectif de responsabilisation est si important dans l'œuvre d'un évangéliste. Donc, évangéliste, je vous rappelle, c'est celui qui est appelé, je crois à tort, missionnaire. Cet objectif est si important et si vital pour la survie de l'église que tout échec dans ce domaine signifie à moyen terme non pas une église, mais une espèce d'entité amorphe, anémique, qui n'a d'église que le nom, qui se prétend église, qui fonctionne, ça et là, comme une église, avec des rites, avec des pratiques. Mais elle n'en a pas la nature. Ce n'est pas un organisme vivant. Ce n'est même pas une organisation efficace. Ce n'est pas un organisme vivant. Où les membres fonctionnent les uns avec les autres pour accomplir les objectifs de Christ. La mise en place de l'autogestion favorise, et c'est pour ça qu'elle était importante aussi, elle favorise la prise de responsabilité par les chrétiens, par les nationaux, dans tous les autres domaines. L'autogestion biblique, sous la direction de la parole de Dieu, développe chez les membres d'église un sens des responsabilités spirituelles, lequel inévitablement va se réverbérer dans les autres domaines de l'autopropagation et de l'autofinancement. On ne va pas, parce qu'on s'est responsabilisé, on ne va pas regarder vers les missions et les missionnaires ou les évangélistes, là, pour l'autopropagation, forcément, ou pour l'autofinancement. On aura appris que c'est la responsabilité de l'église locale de faire cela. Et en accordant pas aux convertis la possibilité de gérer eux-mêmes l'église locale, l'évangéliste étouffe souvent chez eux tout esprit d'initiative et frustre leur développement et leur épanouissement spirituel. Une église locale infantile, immature, se caractérise d'une part par une majorité de chrétiens ignorants, non engagés, complètement dépendants, qui sans cesse disent « Pasteur, qu'est-ce que je fais maintenant ?» comme s'il n'y avait pas la parole de Dieu pour les aider. Et d'autre part, dans cette église infantile, immature, une minorité de chrétiens plus éclairés, qui aiment la Bible, qui la lisent par eux-mêmes, qui l'approfondissent, et qui se frustrent, parce que tout l'ensemble là est à la traîne, parce que tout l'ensemble ne progresse pas vers les objectifs d'autogestion, d'autonomie, d'évangélisation tous adultes. Je dirais aussi que seule l'autogestion respecte la dignité des nationaux. Et peu importe qui sont ces nationaux, hein. J'ai utilisé trois termes tout à l'heure, hein. Autochtones, indigènes, nationaux, aucun d'entre eux ne reflète vraiment ce que je voulais dire. Par nationaux, j'entends les gens qui habitent cette région, qui habitent cette... Alors, les régions sont essentiellement françaises, ou elles sont parfois essentiellement non françaises, mais ce sont des... Pour moi, ils ont constitué une église autochtone, autonome, du pays. Alors, seule l'autogestion respecte la dignité des nationaux. Les nationaux ne sont ni des enfants, donc ne les traitons pas comme tels, même si on est au cœur de la Papouasie, même si on est au cœur de l'Amazonie. Ne les prenons pas pour des demeurés, ni des incompétents, ni des incapables. Ce sont des êtres humains, avec une intelligence, des sentiments, une volonté. Certes, ils ont besoin de se convertir. Certes, ils ont besoin d'apprendre les premiers pas de la vie chrétienne. Et là, l'évangéliste fidèle assure ses premiers pas en leur disant, regardez, il faut prier, il faut faire confiance à Dieu, il faut lire la Bible, il faut... L'évangéliste va avoir un rôle décisif. Il est un peu comme un père qui élève ses enfants et qui les aide justement à atteindre la maturité. Moi, David n'est pas là. Je ne vais pas prendre mon fils aîné, David, qui a 30, je sais pas bien, là, et le prendre par les bras pour l'apprendre à marcher. Il est arrivé au stade où il marche tout seul. Spirituellement, il faut faire la même chose. Il faut amener les chrétiens à pouvoir marcher avec leur Bible, avec le Saint-Esprit, en communion avec les frères, en action avec l'Église, mais qu'ils aient cette maturité. Hein. Si on ne recherche pas cette maturité-là, on aura des églises, certes, avec des gens, et qui vont être sympas, et qui vont chanter, et qui vont prier, et qui vont à l'occasion donner, mais qui n'auront pas forcément à cœur d'évangéliser un peu plus loin, d'apporter l'évangile à quelqu'un d'autre, et de prendre en main les destinées de l'Église. Et il n'y a aucun doute, hein, on apprécie tous ce que les évangélistes ont accompli pour nous aider dans la phase initiale de notre vie chrétienne. Il y a toujours eu quelqu'un, hein, pour nous diriger vers le Seigneur. Il y a toujours eu quelqu'un pour nous encourager à marcher dans la vérité. Et nous sommes très reconnaissants. Mais, ceci étant dit, il faut que le fonctionnement et la direction de l'Église locale passent aussi rapidement que possible Et évidemment, pas, faut pas précipiter les choses de telle sorte que l'Église se casse la figure très rapidement, hein, faut être sage. Mais il faut que l'Église, la direction et le fonctionnement de l'Église passent rapidement et progressivement entre les mains de conducteurs spirituels autochtones. Et le processus est salutaire, d'abord parce qu'il permet justement l'éclosion de ces nationaux, et ils vont prendre une dimension spirituelle. Mais je dirais que le processus est salutaire aussi, ne serait-ce que pour se débarrasser de cette fâcheuse étiquette de religion étrangère qui s'attache à notre christianisme. Moi, lorsque je vais annoncer l'évangile à quelqu'un, il dit, c'est quoi cette religion? Vous venez d'où? Heureusement, j'ai pas d'accent. Parce qu'il y a là une taxe, ben, j'ai pas d'accent. Si, j'en ai un. Mais c'est un accent qui vient de mon terroir. Mais ceux qui ont un accent, ils disent, vous venez quoi? Vous venez ici pour faire quoi? Vous apportez une religion étrangère, vous êtes étranger, vous nous apportez une religion étrangère. Alors, déjà pour se débarrasser des étiquettes de religion étrangère, s'il y avait des pasteurs autochtones, français, francophones, quelle que soit leur nationalité, je crois qu'on ne pourrait plus les taxer de religion étrangère apportée par des étrangers. Et sage est l'évangéliste qui s'applique à responsabiliser les nationaux, selon, évidemment, selon les qualifications scripturaires. Il ne s'agit pas de dire, bon, lui, il est français, donc automatiquement, ou il est francophone, automatiquement, il va devenir pasteur. Non, c'est pas aussi schématique que cela. On a suffisamment d'instructions dans la Bible pour choisir, pour désigner les enfants de cela. Là, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans Actes 14, là, les apôtres ont demandé aux églises de désigner les anciens. Les anciens sont des pasteurs. Bon. Anciens, presbytéros au singulier. Il y a même le terme évêque, épiscopos. Le terme pasteur, poimen, le berger. Ces trois termes-là se recoupent. C'est la même fonction. Il y a des connotations un peu différentes, mais c'est la même fonction. Et donc, la parole de Dieu nous montre, à travers des textes clairs, dans les épîtres pastorales, la première épître à Timothée chapitre 3, mais aussi le texte vers lequel j'aimerais diriger votre attention, qui se trouve dans Tite chapitre 1er. La parole de Dieu nous montre comment en arriver au stade où on peut désigner, où on peut faire nommer, où on peut mettre en place des pasteurs qui prennent le relais des évangélistes. Qui prennent le relais des évangélistes. Et pendant quelque temps, la cheville ouvrière entre l'évangéliste et le pasteur peut se faire pendant quelque temps, jusqu'à ce que la transition soit harmonieusement acceptée et faite. Mais pas indéfiniment. Pas indéfiniment. Alors dans Tite chapitre 1er, l'apôtre Paul dit à son compagnon Tite, Paul avait beaucoup de compagnons, il avait Tite, il avait Timothée, il avait Barnabas, il avait Silas, il avait Épaphrodite, il avait beaucoup de sopaters, etc., etc. Il avait beaucoup de compagnons qui œuvraient avec lui. Et dans Tite, chapitre 1er, au verset 5, à partir du verset 5, l'apôtre Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Alors les anciens, là, c'est dans chaque église, pas les villes. On ne les met pas à la tête de la municipalité. Mais si tu trouves, s'il s'y trouve quelqu'un, alors irréprochable, dont on ne peut pas faire un reproche légitime, valable, parce que irréprochable, tout le monde peut nous trouver des coups sur la tête, hein, mais ça peut ne pas forcément être vrai. Irréprochable, mari d'une seule femme, donc pas polygame, bigame, divorcé 15 fois, ou deux fois, ou une fois, ayant des enfants fidèles, qui marche selon le Seigneur, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que... Alors, tu mets des anciens en place, car il faut que l'évêque, vous voyez que les termes sont interchangeables là, ancien, évêque, car il faut que l'évêque, épiscopos, bon, la religion, les religions ont fait des classifications, mais la Bible n'en fait pas. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, donc qu'il gère bien les choses de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère ou colérique, là, hein, donc quelqu'un qui s'emporte à tout bout de champ, qui est prêt à frapper n'importe qui, là, ni à donner au vin, et là, le mot est intéressant, c'est le gars qui est à côté de la bouteille. Partout où il y a une bouteille. Dans son bureau, il y a une bouteille. Dans son garage, il y a une bouteille. Dans sa boîte. Ça, c'est l'image qui est véhiculée par ce terme-là. Adonné au vin. Ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, qu'il sache accueillir. Ami des gens de bien, et des gens de bien, c'est des gens qui croient au bien, qui font le bien, c'est pas des gens qui ont l'argent. Hein? Ami des gens de bien, modéré, donc modéré c'est équilibré, équilibré dans son aspect, équilibré dans ses paroles, équilibré dans sa vie, hein, c'est pas quelqu'un qui est excentrique. Modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, enseignée par Christ, enseignée par les apôtres, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire dire aux contradicteurs, vous vous trompez. Vous vous trompez. Regardez la Bible, dit ceci, dit cela. C'est ça, réfuter les contradicteurs. Alors, cette autogestion dont je parle commence toujours dans les églises locales, évidemment. Si après, il y a des structures comme celle-ci, comme une école ou un camp, l'apprentissage des responsabilités, c'est fait déjà dans l'église locale. Et on rayonne donc de la structure de l'église locale vers des structures qui sont au service des églises locales. Mais sans cet apprentissage par des gens de l'église à Thionville, eh bien, ces responsabilités, sans ces prises de responsabilité, il n'y aura pas de prise de responsabilité ailleurs. Alors, nous avons malheureusement, il faut le reconnaître, souvent, dans ce pays particulièrement, nous avons souvent des églises qui sont caractérisées par l'immaturité. L'immaturité. Ça, c'est par manque de responsabilisation des nationaux. C'est parce qu'on n'a pas, donné aux nationaux les tâches, les qualifications et les responsabilités pour servir le Seigneur. La responsabilisation des nationaux doit se mettre en place dès les premier effort accompli par un évangéliste dans une église locale. Autrement dit, quand on commence à servir une église, à implanter une église, il y a des gens qui viennent, et dans un stade encore où ils viennent, sont convertis, sont venus à Christ, on leur donne déjà des responsabilités pour leur faire comprendre que l'église, c'est pas l'affaire d'un clergé, là. C'est un organisme vivant. Ce sont des membres qui fonctionnent. Ou la férule de Jésus-Christ, qui fonctionne ensemble. Dès le début! Faut pas attendre, oh ben, il faut qu'il apprenne ceci, il faut qu'il apprenne cela, il faut qu'il apprenne ceci, il faut qu'il apprenne cela. Moi, très rapidement, j'ai dit, bon, oh, on a besoin de quelqu'un pour balayer cette salle. Tout le monde peut faire cela. Même moi. Et d'ailleurs, je l'ai fait quand j'étais étudiant pendant un an, j'ai balayé des grandes surfaces le soir, entre, 10h et 3h du matin, hein. Donc, je l'ai fait, ça. Mais il y a plein de petites tâches qui peuvent déjà être faites. Mais si vous avez un évangéliste qui dit, moi je fais tout parce que je manque que j'ai un esprit serviteur. Ouais, vous avez manqué, vous avez un esprit serviteur. Mais le risque, c'est que les gens ne vont pas se responsabiliser et vous allez devenir un grand larbin de tout le monde. Et vous allez tout faire. Quand on fait tout, on le fait mal. On le fait mal. Donc la responsabilisation des nationaux doit se mettre en place tout de suite. Et dès qu'on a créé un précédent fâcheux, parce qu'on a voulu précipiter les choses et on a voulu contrôler les choses, etc., alors là, l'œuvre se développe mal, et puis elle laisse un précédent. On en reparlera dans un instant. Mais si l'évangéliste prend toutes les décisions, toujours, toutes les décisions, de manière unilatérale, et met les gens devant le fait accompli. Qu'est-ce qui va se développer? Ben, c'est le réflexe de l'assistanat. On a déjà ça dans notre société, profondément socialiste, hein. L'assistanat, l'État nous doit tout, et puis les autres nous doivent tout, et pourquoi ils devraient payer pour nous, etc. On a déjà cela dans la société. Maintenant, le risque, c'est que ça se reproduise au sein de nos églises. Donc, si l'évangéliste prend toujours toutes les décisions de manière unilatérale, ce réflexe d'assistanat va être adopté par les convertis. Il n'y aura aucun problème, c'est leur nature, ça. Pratiquement, hein, de charnel qui joue, là. Et devant les défis et les difficultés des œuvres, les convertis feront systématiquement appel à l'évangéliste. Parce que c'est l'homme providentiel. C'est celui qui sait tout, c'est celui qui fait tout. Plutôt que de prier, plutôt que de rechercher la face de Dieu, la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, sans les écritures, pour prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Ils compteront sur l'évangéliste pour les décisions, ils compteront sur l'évangéliste pour le fonctionnement, pour le soutien de l'œuvre, et ils vont regarder vers lui en disant « il faut trouver des moyens, il faut trouver des ressources, hein, c'est à vous de les trouver ». Et puis, ils compteront sur lui pour venir régler tous les problèmes et surtout les problèmes de discipline. Alors, le commandement du Christ, que nous avons vu en Matthieu chapitre 28, vous vous souvenez, c'était au début, bon, certains n'étaient pas là encore. Matthieu 28, vous avez ce fameux ordre de mission que Christ a donné après la résurrection et avant son ascension. En Matthieu 28, versets 19 et 20, je le dis à nouveau, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bon, là vous avez l'ordre de mission de Christ. Il est clair, il est net, il est précis, il est sans fioriture. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un volet extrêmement important là, c'est après la prédication de l'évangile, et le fait qu'il est converti et il y a des gens qui commencent à marcher dans le baptême, il y a le baptême et on s'identifie à Christ clairement aux yeux de la société et on se joint à une église locale. Et puis, il y a observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Et ça, ça fait partie d'un enseignement qui doit être apporté. Il doit être apporté. Alors, comment les chrétiens, les convertis, hein, nationaux, là, comment vont-ils se développer si l'évangéliste ne leur apporte pas tout ce qui est nécessaire à leur développement spirituel, à leur responsabilisation dans l'expansion de l'Église. Il y a des églises où les chrétiens, alors c'est vrai pour la France, c'est vrai pour d'autres pays, il y a des églises où les chrétiens sont restés d'éternels assistés, d'incurables, frustrés et dépendants. S'il y a une église, c'est par le missionnaire et ses églises à l'étranger. S'il y a des problèmes, c'est à l'évangéliste et les églises à l'étranger de les régler. Si j'ai des soucis financiers, des besoins financiers dans l'œuvre, encore une fois, je fais appel à cet évangéliste et aux chrétiens qui sont à l'étranger, qui ont eu la bonté d'envoyer un évangéliste pour nous former. Donc, vous n'en prenez pas pour votre grade, là, hein. C'est moi qui en prends pour mon grade. Moi, je suis évangéliste, okay. Et ce que je suis en train de dire, c'est que il faut veiller à ce que, dans les œuvres où vous êtes, l'évangéliste fasse son travail convenablement, sinon vous allez avoir une église d'éternels assistés et de frustrés, parce que les responsabilités ne sont pas partagées, et que la vision n'est pas correcte. Hein, la vision sera toujours l'évangéliste règle tout. L'évangéliste règle tout. Alors, il y a des obéissances manifestes de la part de l'évangéliste quand il se satisfait d'avoir le dimanche un auditoire de gens convertis et baptisés et qui mettent quelque chose dans le panier d'offrande et qui vont dire « bon, j'ai donné 2 traités à mes voisins » ou quelque chose comme ça. Ils vont être satisfaits. Et que de fois, au sein de rencontres d'évangélistes, là, avec des pasteurs français, des pasteurs nationaux, je devrais dire, que de fois nous avons applaudi à des statistiques positives, c'est-à-dire que quelqu'un venait et disait « Oh, ben aujourd'hui, hier on était 65, hier on était 82, hier on était 28,5. » Oh, le demi, c'est celui qui dormait. Mais on a des statistiques sans jamais dire « Mais est-ce que ce sont vraiment des chrétiens engagés, consacrés, qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui prennent des responsabilités. Si ça se trouve, et moi j'ai connu ça, as-tu envie, quand j'ai commencé mon ministère, et une ribambelle de gosses, il venait, deux veuves, et je pouvais dire, ah, oh, dimanche dernier au culte, nous étions 35. 35 quoi? 35 quoi? Certainement pas 35 membres d'église engagés, consacrés, etc. Donc les statistiques sont ce qu'elles sont. Hein. Le Seigneur ne regarde pas les statistiques de toute façon. Il s'intéresse à ces hommes et à ces femmes, à ces jeunes qui marchent avec lui, qui marchent pour lui et qui l'honorent et qui le glorifient. Donc, il y a même, et je l'ai dit aux étudiants, là, hein, je dis faites très attention, il y a chez certains évangélistes et chez certains pasteurs une espèce de ligne invisible qu'ils se sont faites, qu'ils se sont données, une ligne invisible de ministère, en dessous de laquelle les autochtones sont sciemment ou inconsciemment maintenus. On veut voir qu'ils progressent au-delà de cela. Or, il s'agit, comme on l'a vu dans Éphésiens chapitre 4 à plusieurs reprises ce matin, il s'agit pour le pasteur docteur de prendre le relais de l'évangéliste et de continuer de perfectionner les saints en vue de du ministère. Leur ministère, le ministère de l'Église, pas le ministère du pasteur, pas le ministère de l'évangéliste, le ministère de tout l'ensemble des chrétiens. Vous voyez, c'est pas l'Église catholique là, hein. Et ce n'est pas les églises protestantes non plus, réformées, luthériennes. Vous avez un clergé qui fait les choses. Et puis les autres sont là et puis font amen, ils sont bons. Donc, le perfectionnement des saints, en vue du ministère, est pour que soit annoncée dans la vérité, dans l'amour, cette vérité. Mais alors, à la manière d'un homme orchestre, vous avez vu les hommes orchestres? Tu sais ce que c'est un homme orchestre? Explique-moi ce que c'est.
Il y a un homme qui a un tambour, qui a une cymbale, qui a une musique, qui a un instrument accroché à ses épaules, sur sa tête,
ouais.
À ses cheveux.
Harmonica peut-être devant
lui,
en fait du côté,
oui.
Hein. Et puis il essaie de jouer quelque chose.
Dans Marie-Paulie, il y en a un comme ça.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette musique? C'est vraiment très beau, n'est-ce pas? Non. À la manière d'hommes orchestres, certains évangélistes, et attention que les pasteurs ne le fassent pas, mais certains évangélistes s'occupent de tout, jouent tout, sans même s'en rendre compte, ils jouent une partition qui est cacophonique, parce qu'ils n'ont pas tous les dons, ils n'ont pas tous les charismes, ils n'ont pas tous les charismes, et Dieu a donné aux membres d'église des charismes spécifiques, pour qu'ils servent pour le bien commun. Le passage qu'on avait vu dans 1 Corinthiens 12, là, tu sais. Le Saint-Esprit donne des dons spirituels aux uns et aux autres pour le bien commun. C'est ça. C'est ça. Donc, on ne joue pas tous la même partition, mais on joue ensemble. Le violon joue sa partition, le piano joue sa partition, le chef d'orchestre essaie d'harmoniser un peu de symphonie et pas une cacophonie. Mais chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle dans une église locale. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Alors certains ne seront pas pasteurs. Honnêtement, vous n'êtes inférieur en rien. Si vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes inférieur en rien. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'église de Christ. Seul Christ est la tête. Seul Christ est le chef. C'est le seul qui soit appelé chef. Donc, Dieu a placé, nous dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, chacun des membres dans le corps comme il a voulu, verset 19, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Imaginez-vous, si on était tous un nez, alors ils sont encore plus grands que le mien, un énorme nez! Il couvrait tous les églises, hein, un énorme nez! Et rien pour le faire bouger, rien pour le faire avancer, rien pour le sustenter, etc. Donc, Dieu a donné une multiplicité. Il faut comprendre la nature de l'Église. Il faut la comprendre et il faut l'accepter. On ne peut pas faire tous la même chose. Ah si, adorer, prier, si, oui, évangéliser. Là, on doit tous servir longtemps. Mais il y a spécifiquement des charismes qui vous ont été donnés par l'Esprit de Dieu pour que vous serviez au sein de cette Église. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. Là, il ne veut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête, ni le pied, je n'ai pas besoin de vous. L'autogestion s'appuie sur de saines bases. Les bases sont quoi? On accepte la Bible comme la parole de Dieu. On définit on définit ou on synthétise plus exactement les vérités bibliques dans une confession de foi. Cette confession de foi doit impérativement être le reflet de l'enseignement biblique, sinon vous pouvez la mettre à la corbeille. Après le départ, cette confession de foi de l'Église, c'était vrai pour Vernon, ça je peux vous le garantir, à Vernon, on a passé des heures et des heures et des heures et des heures en discussion sur chaque point de doctrine. La doctrine de Dieu, la doctrine du salut, la doctrine de l'homme, la doctrine du Saint-Esprit, etc. On a passé des heures et des heures dans la prière, dans la réflexion biblique, pour avoir une confession de foi, et cette confession de foi a été rédigée, discutée, adoptée par les chrétiens. Par les chrétiens. Et s'ils avaient la moindre embrouille à ce moment-là, en disant, ouh, moi je crois pas ça, je crois pas ça. Bon, on pouvait soit essayer de le corriger, soit de lui dire, attends, avant de devenir membre, actif dans cette église, réfléchis bien, parce que si tu crois pas à la divinité de Jésus-Christ, ça va te poser des problèmes, et ça va nous poser des problèmes. Mais elle était rédigée par les chrétiens, conçue par les chrétiens, discutée, adoptée, et après le départ de l'évangéliste, quand il va faire implanter une église ailleurs, eh bien, ce sont ces chrétiens qui sont responsables avec leur pasteur de veiller au respect des doctrines, à la perpétuation de cette doctrine. Et qu'ils puissent le faire en ayant une pleine conviction, là. Et pour avoir cette pleine conviction, il faut que ce soit eux qui, au départ, ont participé à la rédaction du document. Sinon, ils vont dire, oh ben, on a hérité ça de l'évangéliste. Bon, l'évangéliste, maintenant, il a la tataouine. On va jeter cette confession de foi et on va faire ce qu'on veut. L'évangéliste aura passé du temps, consacré de l'énergie, semé abondamment pour les prunes. Pour avoir une église qui dévie de la parole, qui ne glorifie pas Dieu. L'adoption par les autochtones aussi de règlements d'intérieur. Moi, je crois que c'est très important pour une œuvre d'avoir des règlements d'intérieur. Alors, les règlements d'intérieur, je sais, les Français disent pas de règlement, on est des anarchistes, juste à la moelle épinière, là. Mais, les règlements servent à harmoniser les relations. Ils servent à harmoniser les relations. C'est ce que je dis aux étudiants quand ils arrivent ici. Ils voient le règlement. Oh, on doit se coucher à telle heure. Ah, on doit se lever à telle heure. Mais bien sûr, parce que si vous vous levez à n'importe quelle heure, vous allez réveiller quelqu'un qui lui s'est couché à n'importe quelle heure, et tout le monde va avoir seulement 2 ou 3 heures de sommeil. Moi, j'aimerais bien que vous en ayez 7 ou 6 et demi. Ben, un certain nombre. Donc, je suis obligé de vous dire, vous vous couchez à telle heure, tel couvre-feu, et vous ne vous levez pas de manière bruyante avant cette heure-là. C'est pour l'harmonie. C'est pas parce que je suis un grand despote, là. C'est pas ça. C'est simplement qu'on veille au bon rapport des uns des autres. Alors, les règlements d'intérieur comprennent des critères pour l'admission de nouveaux membres. Comment les nouveaux membres se joignent à l'église? Automatiquement, quand ils se pointent 3 fois, ou ça se fait comment? Ça se fait comment? Les règlements apportent une description définie des rôles du pasteur, des rôles des diacres, pour que nulle confusion dans ces fonctions ne puisse se produire au sein de l'église, où les gens vont chercher des conseils spirituel vers les gars pour s'exécuter le pasteur, et ils embêtent le pasteur constamment avec des affaires matérielles. Chacun son rôle. Il faut des procédures claires pour l'appel d'un pasteur, la mise en place de diacres. Il faut aussi stipuler les conditions bibliques pour l'exercice d'une saine discipline. Il faut des règles qui définissent la convocation, la préparation, le déroulement des assemblées dites d'affaires, sinon ça va être confus, ça va créer des tensions bien inutiles. Les règlements doivent rechercher la cohérence dans le fonctionnement et viser au respect de l'expression démocratique des membres, l'attachement aux principes bibliques. Vous tenez le coup, là? L'autogestion, on va se préparer en laissant les nationaux servir. Alors, quand l'évangéliste est en place, quand l'évangéliste a amené l'église à mettre en place des pasteurs, il regarde encore un peu avant la transition, il s'en va. Il est sage pour lui de laisser ce pasteur, qui a été choisi par l'église, de baptiser les nouveaux convertis. Alors, moi j'étais frappé, carré, j'ai vraiment été frappé. En lisant la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, au verset 14, au verset 17. Paul dit, Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Moi, je pensais que c'était vraiment un sine qua non, là, indispensable pour un évangéliste. Hein. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, et c'est Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Donc, comme si le baptême administré par un évangéliste avait plus de valeur que le baptême administré par un pasteur. Ah, alors, c'est de la blague, ça, hein. C'est de la blague. Le baptême n'a de valeur que s'il est administré selon les termes de la parole de Dieu. Un converti qui professe sa foi et s'est fait au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Je peux vous garantir que beaucoup de gens diraient, hey, ce gars-là, il faut le ramener, hein. Il fait pas son boulot, hein. Il baptise personne, il fait pas son travail. Mais, c'est d'autres qui baptisaient. L'église avait été implantée, l'église avait des pasteurs nationaux. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Alors, les responsables nationaux doivent administrer le repas du Seigneur, doivent évidemment apporter l'essentiel de l'enseignement, de la prédication durant cette période de transition où l'évangéliste se déphase. Or, trop souvent, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Dites-le-moi, mes amis. Trop souvent. On a un évangéliste qui reste, et qui reste, et qui reste, et qui pèse sur le pasteur qui a été mis en place par l'Église, et qui pèse, et qui dit, oh, je crois pas qu'il soit complètement prêt, etc., etc., et qui reste, et qui pèse, et qui reste, et qui pèse. Ou alors, vous avez l'autre cas de figure, où l'évangéliste a tout fait pendant les lustres, et puis d'un coup, il y a un petit genou, là, qui sort de l'Institut biblique. Bon institut, je l'ai limé, hein. Il sort de l'Institut, et il lui dit, maintenant, à toi. Je te passe le témoin. À toi, vas-y. Hein. Il n'y a eu aucune transition, aucune préparation, aucune prise de responsabilité progressive de ce pasteur. C'est souvent la catastrophe. Alors, la Bible nous donne évidemment des critères bibliques pour désigner, pour choisir les pasteurs, pour choisir les diacres. Je vais sauter tout cela. Je pense que vous êtes au courant de cela. Mais ce qu'il faut, Il faut absolument éviter. Et là-dessus, les évangélistes doivent veiller scrupuleusement. C'est de ne pas laisser se tisser une dépendance malsaine entre les chrétiens et l'évangéliste. L'évangéliste reste là. S'il y a dépendance totale entre les chrétiens et l'évangéliste, qu'est-ce qui se passe quand le petit genou, fraîchement émoulu de l'Institut biblique, arrive et prend le relais? J'aimais mieux l'autre. J'aimais bien son style de prédication. J'étais attaché à lui. On avait fait des choses ensemble. On avait vécu, etc., etc. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Je pensais que l'Église, c'était pas pour servir un pasteur ou un évangéliste, c'était pour servir Dieu avec lui. Dans cette dépendance malsaine, moi, je ne veux pas que les gens soient attachés. Je ne développe pas un culte de la personnalité, n'est-ce pas? Je ne veux pas que les gens m'aiment, mais qu'ils aiment Jésus-Christ. Parce qu'un jour, je ne serai plus là. Et si les gens sont venus parce qu'ils m'aimaient ou appréciaient quelque chose, je ne demande pas d'ailleurs. Ce serait la catastrophe, n'est-ce pas? Ce serait la catastrophe. Donc, les évangélistes doivent veiller à ne pas laisser se tisser cette dépendance malsaine entre eux et les autochtones. Sur sa personnalité. Personnalité, c'est complètement différent, je peux vous garantir. Ce petit jeune homme-là, à Tourville, ne ressemble pas. Sauf qu'il a du ventre, c'est tout. Mais ça peut être aussi la dépendance pour les décisions, ça peut être la dépendance pour le matériel, les finances, l'argent, etc. Donc, il faut expliquer la nature transitoire du ministère de l'évangéliste. Un jour, l'Église aura son pasteur et continuera à perpétuer le ministère du Christ avec ce pasteur. Et la tâche d'un évangéliste est de permettre à l'Église d'atteindre un stade adulte où elle peut se gérer, elle peut s'autofinancer, elle peut accomplir un travail à l'extérieur. Le dernier point. Alors, mais les nationaux doivent accepter la responsabilité de discipliner les leurs. Alors, je dis cela parce que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. L'évangéliste a incité les églises à discipliner tous ceux qui vivaient dans l'immoralité et qui s'éloignaient des doctrines, etc., etc. S'il le fait de par sa propre initiative, sans intégrer les membres de l'Église dans ce processus, eh ben, il va avoir de gros problèmes. La parole de Dieu nous montre ce processus de discipline dans Matthieu 18, vous le connaissez. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, hein, et lui seul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ameuter la France et la Navarre. Hein. Oh, notre frère a un tel faire ceci, faire cela. Non, on va régler ce problème de manière directe. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute cette affaire se règle sous la déclaration de deux ou de trois témoins. Deux ou de trois témoins vont pouvoir dire, bah, on a fait un effort, on a essayé de l'amener à la raison, il persiste dans son adultère, il persiste dans son mensonge, il ne change pas, et alors ça devient l'affaire de l'Église. Et l'Église va être informée, il y a un membre qui pratique l'adultère, il y a un membre, bon, on ne donne pas tous les détails croustillants, hein, évidemment, c'est pas l'objet. Et l'Église doit le considérer comme un publicain, ça semble fort, mais l'idée que de le traiter comme un publicain, c'est-à-dire que c'est une personne à évangéliser. Il est à la case départ, on ne sait pas s'il est vraiment sauvé. Refuse l'Évangile, refuse la parole de Dieu, il y a peut-être un problème avec ça. Mais c'est pas de le rejeter comme un malpropre. Christ recevait les publicains. Il y a beaucoup d'incompréhension sur certaines de ces choses. Dans tous les cas, l'évangéliste qui règle seul les problèmes de discipline court le risque que l'affaire devienne un bras de fer entre lui, d'une part, le membre d'église de ses copains, d'autre part. Et là, c'est pas un problème qu'il a, c'est plusieurs problèmes qui se manifestent. Et ça, c'est inévitable. Inévitable. Si vous ne laissez pas l'église décider, les nationaux décider, le problème est là et on va le régler. On va le régler. Nous allons le régler. Pas vous, évangélistes, vous allez le régler. Vous avez ce cas extrême à Corinthe où il y avait un inceste. Vous vous souvenez? L'église de Corinthe était une église qui ne voyait même pas le côté immonde de la chose. Et l'apôtre Paul les reprend et leur demande d'accomplir la discipline. Lui dit, si je viens, je peux vous garantir qu'il sera discipliné. Mais c'est l'église qui l'a discipliné. Qu'un tel homme soit livré à Satan, c'est-à-dire qu'il ne soit plus reconnu comme un membre d'église, et que l'esprit, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, qu'il puisse se reprendre, etc. Mais le processus de discipline doit être accompli par les chrétiens, eux-mêmes, les membres d'église, avec le pasteur national, s'il y en a déjà un, qui est en phase de transition, de formation. Alors, moi j'ai découvert des choses ahurissantes. Ça va vous choquer, mais si je vous choque, c'est pour que vous compreniez pourquoi je suis attaché aux principes de la Bible. Un évangéliste qui découvrait que l'un de ses membres faisait des choses immorales ou injustes. Et au lieu de le reprendre et de le reprendre publiquement, une fois qu'il l'a repris individuellement, ça n'a pas marché, qu'il a amené une autre personne, ça n'a pas marché, au lieu de suivre ce processus, cet évangéliste gardait quelque part une espèce de registre noir dans lequel il mettait à tous les corps et les travers des membres délinquants. Et quand ces membres délinquants l'embêtaient sur un point ou un autre, il disait, vous démissionnez parce que ça. Imaginez-vous cela. C'est la méthode KGB, ça. La méthode KGB. Alors, comment allez-vous... Ah bon. Une église comme ça devient malsaine, bien sûr. Donc, il ne s'agit pas d'étaler, comme je l'ai dit, tous les détails croustillants, mais de faire toutes les tentatives nécessaires pour que le frère soit repris. Et s'il n'écoute pas, alors dire à l'église, on est au regret, mais là, il faut prendre une mesure, il faut demander à cet homme, à cette femme, de ne plus être membre de cette église. On va la traiter avec compassion, on va mais la traiter d'une autre manière, tout comme un frère ou une sœur engagée et obéissante. Alors vous allez me dire, jugement, jugement. Pas moi qui ai mis les règles en place. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Et il l'a fait, non pas pour fustiger, crucifier les autres, les gens, mais pour les restaurer. Parce que le but de la discipline, c'est la restauration. Dans le cas du gars, là, qui avait commis l'inceste à Corinthe, il s'est repenti. Il s'est repenti. Et l'apôtre Paul est obligé d'écrire à l'église de Corinthe pour leur dire, hey, allez, dis-moi-le maintenant. Il s'est repenti. Ne le traitez plus comme un afro-jojo, là. Il s'est repenti. C'est un frère en Christ à nouveau. Il est obligé d'écrire cela parce que l'église, d'abord elle était en deçà, et puis là, elle allait au-delà. Donc, ce processus de discipline est très important. Alors, ce contre quoi je lutte, c'est le nanisme spirituel. C'est qu'il y ait des nains spirituels. C'est qu'il y ait des gens qui ne vont à l'église que pour écouter un culte, participer à une prière, et puis, sans véritable relation spirituelle aux autres, sans se poser la question, qu'est-ce que je vais leur apporter de aujourd'hui, comment est-ce que je vais les exhorter, comment est-ce que je vais les encourager, comment est-ce que nous allons opérer ensemble pour que Dieu soit glorifié, pour qu'autour, les gens disent, ah oui, on voit que ce sont des disciples du Christ, regardez comme ils s'aiment. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas faire, Annie, pour que cet amour et cette spiritualité se développent dans l'église grâce au Seigneur qui travaille en toi? Bon, j'ai terminé. Des questions? Commentaires?